émission des années 60 sur RVE. RVE, bonne matinée. Il est 10h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité de la semaine. On a beaucoup parlé alimentation, le salon de l'agriculture sauf ce week-end, mais l'actualité agricole était ailleurs. Cette semaine, on apprenait un énième rebondissement dans le dossier Lactalis. Le géant mondial du lait aurait fait pression sur un laboratoire d'analyse de Nantes pour qu'il lui livre systématiquement des résultats valides. Après contrôle de ses échantillons, Lactalis dément avoir fait pression pour truquer les tests. On apprenait aussi cette semaine que près de 3/4 des fruits et 41% des légumes non bio portent des traces de pesticides. Selon un rapport publié par l'ONG Génération Future, qui s'est basé sur les chiffres publics de la Direction Générale de la Répression des Fraudes entre 2012 et 2016. Et puis cette semaine, les agriculteurs ont aussi manifesté contre les accords de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, autrement dit l'Amérique du Sud. Au terme de ces accords, le poulet brésilien aux antibiotiques et le bœuf argentin aux hormones pourraient entrer dans les supermarchés français. Emmanuel Macron, qui recevait les agriculteurs cette semaine, s'est voulu rassurant, il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France, a-t-il déclaré. Il avait déclaré, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait pas de compte caché à l'étranger. Le procès en appel de Jérôme Cahuzac s'est achevé cette semaine. 3 ans de prison ferme, la même peine qu'en première instance ont été demandées. Cahuzac en prison, ce n'est pas une décision de justice, a plaidé son avocat Éric Dupond-Moretti. Il y en a un autre ministre qui a repris l'expression de Cahuzac, c'est Gérald Darmanin. Je vais vous dire quelque chose, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais abusé d'aucune femme, ministre des Comptes Publics, successeur d'ailleurs de Jérôme Cahuzac au poste du budget, qui exclut donc de démissionner après avoir été conforté par le classement sans suite d'une plainte pour viol, même si l'enquête se poursuit pour une autre plainte pour abus de faiblesse. Le plan du gouvernement contre la radicalisation islamiste a été dévoilé en fin de semaine. Il s'agira de renforcer le contrôle des écoles hors contrat pour contenir l'émergence de structures islamistes et puis de créer des places spéciales en prison pour les détenus radicalisés, pour les isoler des autres détenus. 1500 places supplémentaires vont être créées. On pourra aussi désormais écarter un fonctionnaire radicalisé, et puis les réseaux sociaux devront pouvoir retirer en une heure des contenus illicites. À propos de djihadistes, on apprenait cette semaine qu'une djihadiste française de 27 ans va être expulsée d'Irak après y avoir été condamnée. C'est la première fois qu'une djihadiste va revenir en France après avoir purgé sa peine ailleurs. Arrêtée l'été dernier à Mossoul avec ses 4 enfants, 3 ont déjà été rapatriés en France. Son mari est mort. Elle sera probablement incarcérée dès son arrivée en France, a déclaré la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Enfin, le feuilleton de Johnny Hallyday s'est poursuivi cette semaine. On a appris que la gestion de la fortune de la star décédée est confiée à des banques. Selon les termes du testament arrivé chez les avocats de Laura Smet et David Hallyday, qui contestent ce testament, document qui précise bien que l'exclusion de David et Laura est intentionnelle, car ils ont déjà reçu des rétributions par le passé. L'acteur Jean Reno, ami de Johnny et Laetitia, a pris la parole à son tour cette semaine pour appeler toute la famille à ne pas se laisser gagner par la médisance et la haine. Voilà pour cette rétrospective de votre actualité. Merci de nous avoir choisi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
La météo pour ce dimanche, il faut vous attendre à un peu de pluie aujourd'hui. Des températures qui vont atteindre la maximale de 9 degrés. Et aujourd'hui, on va parler foot avec Philippe Carnus dans Tribune Foot. Et c'est tout de suite sur RVE 103.7. Bon dimanche à tous et merci de votre fidélité.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est le premier numéro donc de ce mois, donc c'est naturellement le foot qui a pris le relais ce matin avec une équipe un peu réduite. Alors on va les présenter à tour de rôle. On commence avec notre ami José Vega du PSG. José, bonjour, ça va ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, très bien, le temps s'est amélioré, donc ça va bien.
Très bien, puis on va vivre un beau mois de foot encore.
Oui, avec la Coupe de France qui est en cours, avec les Herbiers et puis Chambly, deux deux équipes de National qui vont affronter des clubs pro. On va voir ce que ça va donner, mais bon.
Ouais, ça, c'est pour le mois d'avril, mais on en reparlera. Voilà, allez, Francis Coche est avec nous. Le ch'ti, ça va, Francis?
Oui, ça va, bonjour.
Le football nordiste va pas très bien, mais bon.
Ouais, bonjour à tous. Oui, le football nordiste va pas très bien du tout, parce que Lille, pas terrible. Lens et Valenciennes sont dans le fond du classement de Ligue 2, voilà.
Voilà, et puis c'est l'homme du foot dans l'Essonne, hein. Actu Foot 91, tout passe par lui maintenant. C'est notre ami Benjamin, ça va Benjamin?
Ça va Philippe, merci, ouais. Tout va bien. Le foot essonien se porte très bien, et puis on a du pain sur la planche avec un beau programme foot ce mois-ci.
Absolument, et puis il représente les Verts, puisque Bibi Moreau est en vacances, il représente les Verts chez nous. C'est notre ami Bruno Pascoal. Salut Bruno, ça va?
Bonjour Philippe, heureux de retrouver Tribune Foot. Et puis, bah oui, les Verts, ça va mieux. Alors, on espère que ça va durer. Effectivement, les recrues du mercato d'hiver apportent quand même un point positif à nos Stéphanois.
Voilà, alors je voulais quand même préciser d'abord que cette émission est exceptionnellement enregistrée, hein, parce que c'est Paris-Nice ce dimanche, donc on est obligé d'être très tôt à Chatou, étape en vallée de Chevreuse aujourd'hui entre Chatou et Meudon, donc surtout venez encourager les coureurs. Les premiers départs auront lieu pour 12h45 à Chatou, et puis demain il y aura donc à Orsonville le départ de la deuxième étape qui emmènera les coureurs de Orsonville à Vierzon. On sera en direct d'ailleurs aux alentours de 12h-12h30 sur notre antenne, donc allez encourager les coureurs du Paris-Nice. Et puis on a quand même Bibi qui est en vacances, je l'ai dit, nos amis marseillais Pierre et puis Olivier aussi, on a Arnaud qui lui est réquisitionné, et puis je voulais quand même avoir une énorme pensée pour Edouard, hein, notre ami du PSG qui a eu un gros pépin de santé cette semaine. Bon, ça va s'arranger, hein. Il est costaud, il va s'établir. Juliette est à son chevet, donc on voulait leur dédier, avoir une grosse pensée pour eux ce matin. Voilà, on va commenter l'actu foot, mais je suis sûr qu'ils resteront quand même attentifs à ce qu'on va dire. Alors attention messieurs, le Paris Saint-Germain donc en tête après 27 journées, c'est pas une surprise, 14 points d'avance. Les deux classicos, on est resté sur notre fin quand même au niveau du football pratiqué. 3-0 donc dimanche en championnat, 3-0 en Coupe de France, on y reviendra. Il y a, on dit chaque semaine, hein, Paris et les autres.
Les deux matchs Paris-Marseille se sont terminés par 2-3-0. C'est sûr que à ce niveau-là, le PSG est quand même un ton au-dessus, et on l'a vu. Pourtant, Marseille revenait bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont quand même un ton au-dessus. Et quand ils veulent jouer, ouais. Quand ils veulent jouer, Paris, bah ils jouent. Et voilà. Et
Marseille a joué à son niveau, tout simplement. Voilà. Il y a un cran, voire deux crans. En dessous le PSG, hein. Il n'y a pas eu photo, hein. C'est pas le score qui est surprenant, enfin c'est pas le score qui est embêtant, oui, c'est surtout la manière, il n'y a pas de photo, quoi.
Le PSG quand ils sont motivés, quand ils veulent vraiment jouer en France, dans le championnat français, il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas à dire, hein. On ne va pas épiloguer pendant 50 ans, mais c'est ça, ouais.
Francis, c'est pas inquiétant quand même qu'il y ait une telle marche comme ça entre le premier et le troisième du championnat? 3-0, il n'y a pas photo.
C'est inquiétant, mais au moins, que peut-on y faire? Marseille a cruellement manqué d'attaquants sur les deux matchs. Hein. On ne peut pas dire que l'attaque marseillaise a brillé. Hein. Bon, le restant de l'équipe va pas trop mal, mais bon, il y a une différence entre l'attaque de Marseille et l'attaque du PSG.
On a vu dès que Paris mettait la machine en route, il n'y avait pas photo. Quoi. Voilà, c'est-à-dire, très rapidement, Paris se mettait en position de but, d'occasion, physiquement, techniquement, l'équipe était dépassée à Marseille.
Oui, tout à fait, surtout que je crois qu'en possession de balles, c'était pratiquement 50-50, hein, je crois, ça n'a pas été flagrant, hein, mais bon, c'est vrai que quand on voit le troisième but du PSG en Coupe de France, à la remise de la tête de Draxler pour Cavani, on se dit, faut oser le faire. Hein,
c'est super cette action collectivement. Hein.
Oui, collectivement, c'est super. C'est la plus belle que j'ai vue des 6 buts que j'ai vus.
Une action d'école.
Ouais. Une action d'école. Voilà. Alors, inquiétant, non, moi je pense pas qu'elle soit inquiétante. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait,
on s'est ennuyé quand même, Bruno, dans la télé. Oui, ça paraît un énorme classico, quoi. On a connu des meilleurs, on a connu aussi des moins bons. Hein.
On était bien sûr qu'au début de saison, le championnat, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, ne serait qu'une formalité pour le PSG. L'objectif du PSG cette saison était la Champions League. Malheureusement, on a vu que dimanche, un gros pépin pour l'équipe parisienne est arrivé, ce que tout le monde craignait.
On va en reparler. Hein.
Oui, mais il n'empêche que avoir des surprises du peu de résistance des autres clubs face au PSG, on pouvait s'y attendre. Maintenant, ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y ait pas 3 ou 4 clubs comme dans les autres championnats européens qui se tirent la bourre avec le PSG. Et pourquoi ? Puisque financièrement, il n'y a pas des financiers qui ont repris des clubs comme Marseille, comme Lyon, comme voilà. Et c'est là la difficulté. Maintenant, il faudrait faire venir d'autres investisseurs dans d'autres clubs pour qu'on se retrouve avec des championnats comme en Angleterre où vous avez 5 ou 6 équipes qui se tirent la bourre.
Enfin, pas cette année, hein, parce que Manchester City est très largement en tête cette année en Angleterre. Et pour revenir sur ce classico, Marseille, quand même, les années précédentes, même en y étant un ton dessous au niveau classement, il sait quand même souvent son niveau de jeu et aller titiller quand même le Paris Saint-Germain quand même sur ces dernières années. À l'image du match aller où Paris arrache le nul in extremis.
Oui, mais au match aller, le PSG était mis un peu la fleur au bout du fusil, alors que là, bon. Et puis, ils se devaient de rassurer leurs supporters en vue du match contre Madrid. Je pense que 2 ou 3 défaites d'affilée juste avant le match de Champions League auraient fait un peu désordre. Mm-hmm. D'ailleurs, on le voit, puisque le Real de Madrid a été perdre 1-0 contre une équipe relativement mal classée du championnat espagnol. Et là, on commence à s'interroger et à voir Zidane qui fait un peu grise mine. Mm-hmm. Bon, voilà.
Benjamin, cet écart, ces dernières années, quand même, Marseille avait tendance à venir titiller le PSG, quand même, hein, même si Paris régulièrement gagne face à Marseille depuis plusieurs années maintenant.
En fait, Garcia a choisi une autre option que le match aller. Mmh. Il a proposé du jeu, et en proposant du jeu, Paris s'est installé, et donc du coup, il n'y a pas eu de match. Après, oui, quand on a une équipe qui est bâti à coups de millions, rien d'étonnant de voir que Paris Saint-Germain se balade dans le championnat. À Paris aussi, aucune équipe vient enquêter Paris. Au Parc, ça fait quand même plus de 2 ans qu'ils sont invaincus. 50 matchs sans défaite, et ça, faut quand même le noter. Le Paris Saint-Germain d'Emery à l'extérieur et à domicile n'est pas du tout le même, et vous le verrez sûrement mardi soir.
Oui, et puis Lyon est quand même venu inquiéter le PSG cette année quand même. Faut pas l'oublier, ils ont été battus 2-0 au Parc, mais bon, ils n'ont pas démérité les Lyonnais au Parc.
Hein, ils ont mis une certaine opposition, une certaine intensité que Marseille n'a pas su mettre dans ces deux matchs, et le Marseille du match aller n'était pas du tout le même qu'au retour, et en Coupe de France, j'en parle même pas. De toute façon, au bout de 60 minutes, Garcia avait déjà choisi de penser au championnat en mettant des jeunes qui n'ont jamais joué cette année.
Alors, justement, cette deuxième place, donc Monaco, oui, Lyon, Marseille. Lyon va pas très bien actuellement, oui, mais bon, ça peut bouger, ça peut donc évoluer. Hein.
Je pense que pour l'instant, c'est Monaco qui tient la corde. Hein. Ils ont 2 points d'avance sur Marseille. Je pense que c'est Monaco qui va finir derrière le PSG.
Il reste à la 11 deuxième journée quand même.
Oui, mais bon, ils sont quand même assez constants dans leurs résultats, malgré que par moment leur jeu ne soit pas satisfaisant. Mais quand même, je vois plutôt Monaco que Marseille et Lyon à la deuxième place.
Ils ont l'avantage, Monaco, de pouvoir se consacrer exclusivement au championnat, hormis la finale de Coupe de la Ligue. Marseille va devoir jouer encore des tours en Europa League, et vu l'effectif, va perdre forcément des plumes. Lyon pareil, donc je pense que Monaco a une grosse option pour la deuxième place. Par contre, pour la troisième place, ça dépendra du parcours des deux équipes en Europa League. Mais l'OM me semble un peu plus fort cette année que Lyon pour la troisième place.
Alors, je pense que ça jouera aussi aux confrontations directes. Je connais pas bien le championnat.
Il y a un Lyon-Marseille dans 15 jours, c'est fabuleux. Hein. Week-end du 18 mars, je crois. C'est un match important.
Je pense qu'on pourra en tirer des conclusions un peu plus affinées à l'issue de ce match. Et puis après, ça sera la régularité sur les matchs, on va pas dire de seconde zone, mais avec les clubs les moins bien classés. Et un faux pas des uns et des autres est toujours possible. Puisque même si Monaco montre une certaine régularité ces derniers temps, on n'est jamais à l'abri. D'un coup du sort, et puis là ça se tient à 2-3 points. Enfin, les trois équipes qui suivent le PSG sont dans un mouchoir de poche, et il suffit qu'il y en ait un qui fasse un faux pas dans une confrontation qui n'est pas forcément directe, et puis boum, le championnat est relancé, puisqu'il faut quand même pas se voiler la face. Cette année, on a deux championnats, on a le PSG, et on va dire que le deuxième sera éventuellement le premier du championnat français 2017-2018.
Oui. Hein, ça va faire comme il y a 2 ans, hein, où Paris avait gagné, je crois, 18 points d'écart. On est parti pour, hein, on l'avait dit en début de saison. Certains veulent dire, oh non, vous voyez, hein, on va y arriver.
C'est pas deux championnats, c'est un spectacle avec le PSG qui amène la foule dans tous les stades où se produit. Et puis il y a
le reste du championnat.
L'inconvénient, moi, je trouve de Lyon, c'est que Lyon est inconstant cette année. Il est capable du pire comme du meilleur. C'est impressionnant.
Ils sont capables de battre Paris à domicile, comme ils l'ont fait. C'est une des seules équipes avec Strasbourg qui ont battu le PSG. Et ils sont aussi capables de perdre contre une équipe de bas de tableau.
Oui, parce qu'on parlait de Lyon qui était venu jouer au match aller au Parc. Hein. Et c'est une des deux équipes à avoir battu à domicile, donc le Paris Saint-Germain, Strasbourg a gagné à domicile face au PSG, c'était juste après l'émission du mois de décembre, et puis Lyon a gagné 61 devant le PSG. Hein.
Lyon qui mène 2-0 face à Lille et qui se fait battre 3-2, et puis le comment dirais-je, contre l'AS Saint-Etienne où à 5-0 match aller, les Verts avaient quand même envie d'effacer un petit peu ça. Bon, bah, quand j'ai vu 1-0 déjà, j'ai dit bah ça y est, c'est reparti. Et puis non, bah, on voit que ça se liquéfie au cours du match, et puis bah, les Stéphanois arrivent à arracher le nul. Au stade, j'allais dire Gerland, mais non, c'est plus Gerland.
Alors, justement, pas décevant aussi ce classico là entre Lyon et Saint-Étienne, 1-1 sans supporters adverses. Est-ce que c'est ça aussi le foot? Est-ce que c'est ça aussi les derbies, Bruno? Non, mais bon.
Oui, mais je suis d'accord, mais quand on voit qu'une opportunité a été faite à l'OM de faire rentrer 400 supporters Parc des Princes, et quand on voit le résultat, on peut se poser la question de se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire déplacer des supporters pour en arriver là? Enfin, moi, je n'ai jamais appelé ces gens-là des supporters. Vous m'excuserez, les ultras, les ci, les ça. Moi, je suis supporter d'un club, mais depuis ma plus tendre enfance, mais j'ai jamais été cassé des urinoirs ou cassé des sièges dans un stade. C'est pas supporter une équipe de football. On peut aller chambrer les adversaires, chambrer les supporters, mais rien de mieux d'aller boire un coup avec le supporter d'en face, même si on a perdu. C'est ça un vrai supporter, c'est pas des gens qui cassent.
Alors, Saint-Etienne va mieux, justement, votre club fétiche. Je voulais simplement dire qu'on devait avoir Mickaël Panos ce dimanche. Hein. Bon, Mickaël, il est sollicité pour jouer les matchs en retard, mais il sera là dans le courant du mois de juin. Vous aurez un footballeur professionnel donc qui participera à Tribune Foot. Il nous a confirmé, et son club nous a confirmé donc sa présence dans les prochains mois. Donc Saint-Etienne va mieux, comme Bordeaux va un peu mieux.
Bordeaux pouvait laisser l'apparence d'aller un peu mieux, mais bon, au vu, voilà. Bon. Après, oui, ce sont des clubs qui essayent de sauver et d'obtenir le maintien, puisque c'est en milieu de saison, c'était pas gagné. Et donc, ils ont eu un recrutement au mercato d'hiver qui était assez judicieux. Donc, ça leur a permis de...
Bordeaux va mieux contre les petites équipes, parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils jouent à Marseille, il y a eu un non-match. Ils ont joué contre Monaco, même combat. Bordeaux va terminer entre la 7e et 10e place.
Mais ils vont finir dans le ventre mou comme Saint-Etienne, quoi, à peu près. Hein. C'est leur ils ont raté leur début de saison, ils sont bien rattrapés, ils vont être dans le ventre mou.
Sauf que Saint-Etienne avait quand même eu l'intelligence, pour une fois, il faut le noter, ça doit faire au moins 3-4 ans, de faire un vrai mercato hivernal, avec des recrues d'expérience, qu'on peut juger peut-être lentes, mais qui vont avoir vachement apporté au club. Et je pense que la bonne recrue, c'est Mathieu Dubuchy à droite, que vous verrez sûrement pendant la Coupe du Monde.
Il est bien parti pour retrouver le groupe France, hein, Mathieu. De Bichy, France.
Ce qui va être passionnant, par contre, ça va être la fin de championnat pour le maintien et pour le barrage, parce que quand on voit l'écart,
c'est bien. On allait en parler justement.
Quand on voit l'écart entre l'avant-dernier, parce que Metz à mon avis est condamné, entre l'avant-dernier et même jusqu'à Saint-Etienne, je crois qu'il y a 7 ou 8 points. Tout est possible.
Hein. Tout est possible. Hein, en fonction des résultats sur une ou deux journées, on va et vient entre Dijon, Amiens, Toulouse, Lille, tout ça. C'est vraiment.
Même pour Saint-Etienne, ils sont jamais qu'à 3 points de Nantes, mais il suffit qu'un revirement, on voit que Nantes commence à baisser un petit peu pied.
Strasbourg aussi.
Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On peut se retrouver à la 5e place et éventuellement être en Europa League, ou alors se retrouver pas loin du barrage.
Par contre, la grosse inquiétude, c'est Lille, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont habituées à jouer le maintien, qui savent qu'ils sont conditionnés pour jouer le maintien. Et Lille, je suis pas sûr qu'ils étaient conditionnés en début de saison pour jouer le maintien.
Ils ont encore perdu 2-1 hier à Nice, et de toute façon, on parle la bataille du haut du championnat. Il y aura aussi la bataille du bas du championnat, comme on est en train de dire, ça sera pour le maintien et pour pas descendre, justement. Et voilà.
Hein. Mais ça va être serré, ça va jouer jusqu'à la dernière journée.
Ça va être passionnant. Oui. Hein, et puis en Ligue 2 aussi, peut-être.
On va dire qu'on se passionne pratiquement plus pour voir les clubs qui vont descendre que pour ceux qui sont en tête. Effectivement, en Ligue 2, on a Reims. Le deuxième, c'est.
Il y a Ajaccio, le Paris FC, pas loin.
Clermont.
Alors moi, j'aimerais bien voir Paris FC, une deuxième équipe.
Reims a perdu hier soir.
Reims a perdu. Le PFC. ça serait quand même bien de les revoir en Ligue 1.
On irait à Charletti comme ça.
Voilà, ça nous rappellerait. Ça nous rappellerait notre jeunesse où il y avait le PSG n'existait pas.
Il y avait le Paris FC.
Il y avait le Paris FC et puis il y avait le Red Star à l'époque.
En tout cas, le Paris Saint-Germain, on en parlait. PSG Monaco, ça sera la finale de la Coupe de la Ligue. On connaît les finales de Coupe de France, tirage au sort entre donc cette semaine, les Herbiers qui vont jouer Chambly, Caen qui va recevoir le PSG. Ça veut dire que la voie, elle est aussi tracée pour le PSG pour aller faire un nouveau triplé. Ça sera quand même le troisième triplé depuis 2015.
Alors, je crois qu'ils sont détenteurs du record d'obtention de la Coupe de France. Ils ont passé Marseille. Je crois qu'ils sont à 11 victoires et Marseille doit être à 10. C'est comme pour le reste. C'est rien d'étonnant. Par contre, je suis heureux pour les petits clubs comme les Herbiers et Chambly. Enfin, on dit des petits clubs. National 3, c'est quand même. Enfin, la nationale, c'est quand même la troisième division. Tant mieux pour eux, ça va leur permettre. C'est des belles histoires, c'est des beaux souvenirs. Alors effectivement, après au niveau football, on va dire que le match le plus intéressant à regarder, ça va être les Herbiers Chambly qui va avoir lieu à Nantes.
Ça sera pas sur France Télé, bilan, je peux vous le garantir.
C'est dommage. C'est dommage.
Sur sport,
C'est dommage puisque le football à la télé, maintenant, si on paye pas, on le voit pas. Et ça serait l'occasion de voir des équipes comme ça sur France Télévisions. C'est quand même bien dommage que le football en soit arrivé à être regardé que par des gens qui ont de l'argent.
En fait, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de football, mais on a un peu tué la Coupe de France en mettant les matchs la semaine. Et comme j'ai pu entendre dans divers débats, aujourd'hui, les gens ils se déplacent pas la semaine pour aller voir un match de Coupe de France. Et ça, c'est dommage pour les recettes des petits clubs. Et ça, c'est quand même. La Coupe de France passe après beaucoup de compétitions aujourd'hui.
Oui, c'est vrai quand même qu'une équipe de nationale qui arrive en finale de Coupe de France, c'est pas tous les ans aussi. Et donc, on mise probablement pour que ces équipes-là ne soient plus en compétition à partir des quarts de finale.
On voit quand même que certains clubs de Ligue 1 font passer la Coupe de France au deuxième plan. Quand on voit Lyon, la prestation de Lyon à Caen, tirage effectué juste avant, on a bien vu que leur priorité c'était l'Europa League avec la finale potentielle chez eux et le championnat.
Alors justement, les résultats, on va voir, parce que effectivement, Caen a battu Lyon 1-0, dans le temps réglementaire. Chambly qui bat Strasbourg 1-0 dans le temps réglementaire, est-ce que c'est pas ça qui est grave? Il y a que finalement les Herbiers qui battent au tir au but Lens après un 0-0. Voilà.
Oui, mais bon, quand on a vu la prestation de Strasbourg contre Chambly,
mais c'est ça qui est grave.
Visiblement, ils n'étaient pas venus pour la gagner. Je me trompe, mais le niveau était égal. On peut pas dire que.
Mais c'est ça qui est grave. Bon, même si on sait qu'en national et même maintenant en CFA, il y a des joueurs qu'on fait que, Clairefontaine, qu'on fait les clubs pro, qui sont la même formation. Ouais. C'était le cas pour Calais, on a bien connu Calais. On les a accompagnés, ils sont venus se préparer ici, dans la région pour la finale. Il y avait des joueurs qui jouaient à Calais qui avaient été refoulés des clubs professionnels après avoir fait Clairefontaine et puis les centres de formation. Donc il y a quand même aussi une formation au départ qui est la même.
Rappelez-vous quand même une équipe comme Nîmes qui avait été en Coupe d'Europe, qui avait gagné
ils avaient été en Coupe d'Europe.
Oui, parce que Serre avait fait le doublé. Et Guignon, il faut se rappeler Guignon.
C'est vrai qu'on c'est bien pour les petits clubs, mais au niveau du spectacle, on est à côté.
C'est bien parce que le national, c'est tout de même le vivier des futurs joueurs pro. Une partie.
Ribéry en vient.
Tout à fait. Et puis en plus, ça donne un peu un éclairage sur le championnat national où, quand on voit les affluences, je trouve ça lamentable. Quand on a 400 ou 500 spectateurs, on est content. Alors qu'on fait la même chose en Angleterre, ils sont 5 ou 10 000. C'est bien.
C'est bien pour le foot, c'est bien pour l'esprit coupe, mais peut-être pour le niveau du football français, c'est pas. Que Villiers qui arrive en finale il y a quelques années. Bon, Calais, on l'avait dit, à chaque fois que ce soit Lyon ou Nantes, qu'on gagnait ses finales devant Que Villiers et puis Calais, ça a toujours été par petite marge au score 1-0 et 2-1.
Moi je me souviens parce que j'étais allé voir le match à Bollard entre le Calais et Bordeaux. Je vais vous dire que c'est Calais qui avait gagné, mais c'était fabuleux. On n'avait pas, trois divisions d'écart ce jour-là. C'était fabuleux. C'est le meilleur souvenir que j'ai d'ailleurs.
Moi je pensais que, enfin j'espérais pour nos amis Lensois et pour les Ch'tis qu'ils allaient passer. Et puis ça m'aurait fait plaisir de retrouver Lens en finale de la Coupe de France. Malheureusement, apparemment, qu'est-ce qui se passe à Lens?
Ouais. Alors, en tout
mauvais
cas.
Recrutement, ouais. Mauvais recrutement. Le public est un peu désespéré, hein, mais je pense qu'avec le matériel qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire mieux actuellement.
Voilà, en tout cas, demi-finale, donc les 17 et 18 avril, hein, José, après les tours de Coupe d'Europe. Et finale, le dimanche, ça sera le mardi 8 mai. On peut quand même penser qu'il y aura du mal à gérer l'événement, qu'on va s'appeler Chambly ou bien les Herbiers, la difficulté, c'est ça.
C'est
une consécration, mais jouer au Stade de France, faut gérer l'événement.
C'est déjà leur propre victoire. Déjà, aujourd'hui, pour eux, la demi-finale entre les Herbiers et Chambly, c'est un peu leur finale. On sait très bien ce qui va se passer en finale, il n'y aura pas de match. Mais d'aller au Stade de France pour des joueurs de ce niveau-là,
jouer au Stade de
France. Bonne récompense dans une carrière, quoi.
Alors, ce qui est fou quand même, c'est que ce sont deux équipes qui sont en national et qui se battent pour le maintien. Hein.
D'ailleurs, les Herbiers a pris 3 points hier soir, très important. Ils sont imposés à l'extérieur. Et Chambly devait jouer à Créteil. Match a été reporté, mais Créteil est dernier, Chambly avant-dernier. Mm-hmm. Et d'après les mots de l'entraîneur, entraîneur de Chambly, il n'avait pas forcément le sourire après la qualif parce que derrière, ils sont à 4 points du premier non relégable et ça va être compliqué parce que la Coupe de France ça use de jouer en semaine quoi.
Alors on va rappeler qu'à Chambly ça a été un soir aussi de tristesse parce que le jour où ce club arrive pour la première fois de son histoire en demi-finale, il y a le décès du président fondateur.
Le fondateur qui est décédé devant le match. Après c'est une grosse déception, on peut prendre ça comme une belle histoire, mais bon, c'est vrai que les joueurs étaient partagés entre la joie de se qualifier et puis de perdre le fondateur, l'homme à tout faire de ce club, quoi, qui a vraiment été la pierre édifice du Chambly.
Et Chambly, dont un des responsables, et notre ancien confrère de l'équipe, grand spécialiste de boxe et du foot anglais, qui était Jean-Michel Rouet, c'est lui qui maintenant a pris les manettes pratiquement comme directeur général.
C'est d'ailleurs lui qui a annoncé le décès sur la chaîne de l'équipe. Le soir de match.
Voilà, Francis, donc pour cette Coupe de France. Le football l'ordi, j'aimerais qu'on en parle un peu, parce que ça part très bien quand même. Valenciennes est dans le ventre mou, Lens se terminera dans le ventre mou, Lille se bat. Qu'est-ce qui se passe dans l'or?
Je ne sais pas, c'est le mauvais choix. À Lille, il y a déjà eu le choix de Bielsa, qui a recruté...
Est-ce vraiment un mauvais choix?
Je pense que c'était un mauvais choix. Soit parce que bon, les personnes qu'il a rapatriées ont pas percé et là Galtier essaie de se dépatouiller avec ce qu'il a. Il a du mal, hein. Et puis je sais pas, apparemment il y a un état d'esprit qui est pas terrible actuellement à Lille. Voilà, à Lens, les joueurs très sincèrement sont pas bons. Je pense que le recrutement a été très mauvais malgré le public, hein, parce que c'est tout de même le plus grand public de Ligue 2, ce qui est dommage. Mais enfin, et à Valenciennes, c'est inconstant, quoi. On est capable de battre des bonnes équipes, et puis hier on se fait battre, ils se font battre à domicile, par Orléans en plus. Ça va être chaud pour nos ch'tis de se maintenir déjà en Ligue 2, parce que Lens et Valenciennes, c'est limite, et Lille, j'espère qu'ils vont pouvoir remonter et rester en Ligue 1.
Juste pour imaginer un peu le projet de Lille, ils ont fait le choix de recruter via Bielsa. Aujourd'hui, ils ont mis dehors malproprement des cadres comme Mavouba et Balmont. Et aujourd'hui, vous voyez que Florent Balmont, il s'est pas une Dijon, titulaire à 36 ans. Donc voilà, après je pense que on a tout résumé quand on voit la carrière aujourd'hui que de Balmont, de jeter ces cadres-là, ça peut pas être fait dans un club comme ça.
Ah ouais, parce que...
Allez, on termine la première mi-temps de cette tribune foot. On va au vestiaire, la pub, la musique, et puis on revient donc sur le terrain pour parler notamment des coups.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb loue Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
À Rambouillet, 14 rue Châle, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Châle à Rambouillet, au 01 30 88 62 32. Et maintenant,
Une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors cette émission, naturellement, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions de ces dernières semaines, notamment sur les Jeux d'hiver de Pyeongchang, hein, dont on vous avait très abondamment parlé. Et puis, bah, c'est marrant, cette émission, elle est un peu plus calme aujourd'hui. Hein, il y a moins, hein, c'est moins animé qu'à l'ordinaire. Allez, on va revenir sur les Coupes d'Europe, puisque justement, ça sera l'événement de cette semaine. Paris Saint-Germain, donc battu au match aller au Real de Madrid 3-1. On sait que Neymar sera indisponible entre 6 et 8 semaines, il ne sera pas là. Alors messieurs, question simple, est-ce que Paris Saint-Germain peut le faire ?
Alors Paris, on sait que l'année dernière, sans Neymar, produisait du bon football au Parc des Princes, ils sont capables de battre le Real. Oui. Le problème est que il faudra ne pas prendre de but, pas encaisser de but contre le Real. On a vu qu'au match aller, Marc avec le Real ne produisent pas un beau football, ne soit pas impressionnant. C'est bien payé, 3-1. Ils ont marqué 3 buts. Donc pour moi, Paris peut battre le Real, mais de là à battre le Real sans encaisser de but, ça va être très compliqué.
Surtout que le Real marque toujours à l'extérieur. Et puis voilà quoi, ça va se jouer encore à très peu de choses. Comme le match aller, qu'est-ce qui a manqué ? Parce que finalement, Paris fait jouer égal sur le match aller avec Madrid.
Pour ma part, tout le monde sera peut-être pas d'accord. Mais on parle de Neymar, on n'en parlera plus, mais Neymar n'a pas été au niveau de Ronaldo sur un match comme ça. On a vu la différence, que Ronaldo est un peu emprunté en début de saison, il a juste réagi sur ce match-là, il a su se mettre au niveau. Neymar n'a jamais percé la défense, n'a jamais frappé au but. Donc le petit plus, la valeur ajoutée de chaque équipe a joué en faveur du Real.
Alors, est-ce que justement, le Real, des matchs comme ça, ils en font depuis 10 ans ? Est-ce que c'est pas ce qui manque au PSG qui n'en fait que depuis 5 ans ?
Après, on va pas chercher des excuses. Pareil.
Non, c'est pas des excuses, il faut simplement des conclusions, des analyses.
Forcément, l'expérience en Ligue des Champions, ça joue beaucoup. Quand vous voyez que Manchester City, ça fait 10 ans qu'ils essayent de gagner des champions, ils y sont toujours pas arrivés. Chelsea a mis 10 ans. Mais quand on met 400 millions au mercato estival, on est en droit d'aller plus loin que les 8e. Et peu importe que ce soit le Real, de toute façon, il y a d'autres équipes derrière, on n'en parle que d'un 8e. Et aujourd'hui, ça sera l'échec du club. Si Paris devait être éliminé, ça serait l'échec du club, de l'entraîneur et aussi des joueurs, car tout le monde est responsable. Emery n'a peut-être pas fait les bons choix à l'aller, mais certains n'ont pas joué au niveau. Marco Verratti n'est plus le même que l'année dernière.
Alors justement, Benjamin, si Paris échoue, est-ce que c'est pas la fin d'un cycle ? Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque ? Parce que ça fait quand même, on dit, quelques années maintenant, hein, 3-4 années de suite où Paris échoue en quart de finale. Ça ferait 2 années de suite que Paris échoue au stade des 8e. Est-ce que finalement, ce ne serait pas la fin d'un cycle ?
Bon, en fait, il faudrait se poser plusieurs questions. C'est sûr que Thiago Motta va partir. Il y aura des cadres, peut-être comme Thiago Silva, qui vont s'en aller, un des deux gardiens. Peut-être, plutôt qu'additionner des talents, essayer de faire sortir des jeunes, comme a su le faire le Barça, comme Rabiot est le meilleur exemple. Aujourd'hui, Rabiot, c'est un jeune issu du club, Kimpembe aussi, et c'est quand même pour moi ceux qui sont au niveau dans les gros matchs.
Alors, est-ce que les principaux responsables, c'est pas ni plus ni moins les Qataris ?
Ah bah,
est-ce qu'ils savent donner une âme à un club ? Ce qui est le cas pour Barcelone, ce qui est le cas pour le Real, ce qui est le cas pour le Bayern, et même la Juventus.
Comme on en a déjà parlé ensemble, est-ce que l'âme du club n'est pas encore créée ? Mais aussi se dire aujourd'hui pourquoi pas changer un peu la politique et pourquoi avoir mis ce directeur sportif ? À quoi a servi ce directeur sportif dans ses recrues ? Aujourd'hui, on n'entend pas parler. Suite à la blessure de Neymar, la seule personne qui a annoncé le forfait de Neymar pour la fin de saison, c'est le père et agent de Neymar. On a l'impression que l'agent de Neymar est plus puissant que le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est quand même dramatique.
Comme quoi, les infos étaient bonnes au départ. Hein, parce que quand on a eu l'info, on nous a dit, oh, c'est de l'intox, tout ça et tout. Alors finalement, c'était pas d'intox.
Alors qu'Emery, je vous laisse la parole après. Alors qu'Emery, une heure avant, affirmait qu'il n'y aurait pas d'opération pour Neymar. Aujourd'hui, il y a fracture du métatarse et non fissure.
Alors quand on essaye de comparer le Paris Saint-Germain avec les Cop. Comme le Real de Madrid, la Juventus de Turin, le Barça, les clubs anglais. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain est un jeune club créé dans les années 70. La Juventus, la création du club, allez, le Real Madrid, ça a plus de 100 ans. Donc effectivement, il ne faut pas confondre un club riche avec un club avec une histoire. Et forcément...
Paris a déjà eu à son niveau une histoire quand même.
Qui remonte à combien de temps ?
Il y a 20 ans déjà.
Et moi je pense que Paris est capable, mais effectivement, il manque à bord de ce navire un capitaine. Personne pour gouverner, personne pour tenir la barre. Personne. Oui. C'est tout le monde et personne.
C'est un peu défaut des Qataris.
Vous avez le Real de Madrid, il y a son président. Voilà. Quand il parle, point barre. Voilà. Il parle, je veux Zidane, je garde Zidane, j'ai ci, j'ai ça. Au Barça, c'est pareil. Mais au PSG, Il n'y a personne.
Mais Paris Saint-Germain a déjà eu une belle équipe dans les années 90. L'équipe avait une âme. Quand vous prenez les Ginola, les Valdo, les Ouéa, Lama dans les buts, etc. etc.
Que de souvenirs, José.
Oui, que des souvenirs. C'était quand même un bon investissement. Canal Plus s'était bien investi et avait bien mené sa barque. Et ils avaient mis Denisot. Denisot, c'était un président.
C'est pratiquement le seul journaliste qui a réussi comme président de foot.
C'est bien de le relever, Philippe.
C'est bien de le relever. Là, on est, comme disait Benjamin, on est confronté, et puis Bruno, il n'y a pas de président, il n'y a pas de parole, il ne tape pas sur la table, on ne sait pas qui dirige quoi, et comme disait Benjamin, le père de Neymar est plus fort que le Paris Saint-Germain, parce que là, j'ai l'impression que les Brésiliens vont s'accaparer Neymar pour le garder au frais pour la Coupe du Monde en Russie. Oui, et ça, c'est sûr. Alors, mais qui c'est qu'il paye quand même? C'est quand même le Paris Saint-Germain qu'il paye, c'est pas la sélection du Brésil qui va le payer.
Parce que 6 à 8 semaines, ça veut dire qu'on arrive à mi-mai pratiquement.
Bien sûr, pour moi, le championnat pour lui, il est terminé. Et puis les Brésiliens vont le garder au chaud et puis ils vont le ressortir au dernier moment.
Bon, les Qataris ramènent tout de même l'argent, c'est fondamental tout de même, les gars, faut pas oublier.
Oui, mais enfin, si l'argent, ça mène pas les résultats escomptés, voilà quoi. Ouais. Ça sert pas grand chose.
Bon, moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est la facture de Neymar, parce que l'action, j'ai pas.
C'est tout seul.
Il y aura déjà un préalable, parce que pour se péter un orteil comme ça, c'est pas en se tendant la cheville qu'on se casse un orteil.
Oui, alors justement, il a quand même un style de jeu qui s'y prête, Neymar. Il provoque un peu. C'est vrai qu'on fait beaucoup de fautes, c'est vrai qu'il prend beaucoup de fautes contre lui, de tampons, mais il a aussi un style de jeu qui s'y prête quand même. C'est pas Ibra.
Non, c'est sûr qu'il a un jeu à prendre des coups, mais le problème aussi, c'est qu'il va falloir dire les choses. Aujourd'hui, Mbappé est sorti sur le même match. Est sorti à la 60e minute. Pourquoi pas sortir les deux? Il y a 2-0, 3-0 contre Marseille, le match est plié. On a une rencontre à 10 jours. Il faut qu'Emery aussi assume. Il n'a pas la carrure d'un entraîneur qui sait manager une grosse équipe avec des grosses individualités. Neymar doit jamais finir le match. 80e minute, même si Neymar lui demande à rester, c'est à l'entraîneur de poser ses conditions. Il s'est déjà pas imposé avec Ibrahimovic. Il fait la même chose avec Neymar. Neymar, s'il veut rester sur le terrain, il reste sur le terrain. Aujourd'hui, on a la réponse. Ben, il restera à Clinique.
Alors, moi, quand je vois effectivement l'action, je me pose la question. Alors, je suis pas médecin, j'ai joué au football. Je me dis que si, même si c'est les joueurs professionnels qui sont habitués à faire un match tous les trois jours, au bout d'un moment, la fatigue, la répétition des coups, peut amener ce genre de, comme vous entendez, fracture de fatigue et tout. Moi, je suis pas persuadé, quand je le vois poser son pied, si sa fracture n'était pas là au préalable ou sa fissure, et que c'est ça qui lui fait tordre sa cheville. Parce qu'en fait, l'appui du pied à plat, on voit bien le pied qui tourne, mais il n'y a pas de trou au Parc des Princes. Hein, ils ont le meilleur, pas jardinier, mais garden, je ne sais plus trop quoi, là, comme disent les Anglais. moi, je pense que, enfin, il est fort possible que cette fissure soit là antérieurement et que ça implique l'entorse.
Oui, mais Bruno, on parle de la répétition des matchs, mais comment ils font le Real de Madrid? Comment ils font le Barça? Comment ils font le Bayern de Munich? Comment ils font
ils savent peut-être gérer l'effectif mieux que les Parisiens.
Après, il ne faut pas oublier que le Paris n'a pas eu des grosses blessures ces dernières années. Ils ont toujours eu leur joie. Là, c'est vraiment la grosse tuile, quoi. On va dire que ça tombe là.
Il y a une année où vous avez été battu par le Barça en quart de finale où il y a eu pas mal de blessés, hein, je crois.
Ouais,
la deuxième fois, ils sont battus, ça devait être dans les années 2015. Chelsea. Ils ont eu des blessés quand même là, puisqu'ils n'ont pas vu le jour sur les deux matchs.
Mais là, on achète quand même. Là, c'est quand même les deux joueurs phares. On met 400 millions d'euros sur ces deux joueurs. Il y a quand même deux joueurs à protéger. On n'achète pas ces joueurs-là pour aller gagner 3-0 à 3 ou même gagner un classico. On n'a pas besoin de ces joueurs-là pour.
Trois triplés.
Ouais, voilà. Mettre 3 buts contre Dijon, on sait tout ce qu'il sait le faire. Mais c'est ces valeurs ajoutées, on les attendait sur ces matchs comme ça. Bah, aujourd'hui, il y en a une des deux qui est pas mal.
C'est sûr qu'on ne s'explique pas. Pourquoi à 3-0, à 20 minutes de la fin, où on n'a plus besoin de rien prouver, pas rentrer au chaud Cavani, Mbappé et Neymar. Hein, c'est logique. Oui. Et puis au match de coupe, Coupe de France, c'est pareil. Une fois que le résultat est fait, on remet tout le monde à l'abri et terminé, point barre.
Même
on
Garcia protège. A fait ça.
Mais... Ben oui, Garcia, alors pardon.
J'espère qu'on se trompe sur toute la ligne et que PSG va faire un super match et qu'ils vont battre le Real comme ils ont battu le Barça l'année l'année dernière ou il y a deux ans, 4-0. Bon, après, on va pas reparler de la remontada, mais s'ils nous sortent un match comme contre le Barça à l'aller, je pense que c'est possible. Mais je crois aussi que le Real marquera quand même un petit but au Parc, par Ronaldo ou un autre. Hein, lui, il est toujours là dans les grands matchs. Mais j'espère que le Paris Saint-Germain gagnera au moins 2-0.
On sait tous que Paris est capable de battre le Real et 2-0, 3-0. Ils ont l'équipe aussi forte l'année dernière. Après, l'inquiétude, c'est quand même les couloirs. Et on a vu que Marcelo a fait la différence au match aller. Là, c'est
Carvajal. C'est Nacho qui rentre et qui fait la différence.
Voilà, c'est Carvajal qui va récupérer le poste d'arrière droit à la place de Nacho. Ça va être autre chose. Mm. Et là, c'est quand même fragile au niveau des latéraux du côté parisien. À savoir aussi s'il restera campé sur ses idées, qu'il remettra la même sentinelle, le Celso, qui a été quand même très défaillant au match aller.
Bon, messieurs, réponse le 8 avril dans Tribune Foot. Hein. On en reparle dans notre prochain rendez-vous du mois d'avril, puisque le 1er avril, ça sera le dimanche de Pâques, donc on sera en repos. Les clubs anglais reviennent en force, en tout cas, dans cette Ligue des Champions. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham et peut-être Chelsea qui a fait machine contre le Barça un partout. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, c'est une bonne chose, parce qu'ils étaient un peu effacés ces derniers temps, les clubs anglais. Bon, on va voir, ce que j'aimerais bien voir, c'est Chelsea, s'ils vont réussir à faire ils ont une bonne équipe tout de même.
Il n'y a pas de secret, hein. Il y a encore les Qataris derrière le Manchester City. Ouais. Et on voit comment ça tourne, hein. Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe ou en Champions League, ils sont là.
Pour l'instant, dans leur histoire, ils n'ont qu'une demi-finale de Ligue des Champions,
c'est vrai,
quand même.
Oui,
hein,
oui, mais
en 10 ans.
Il n'y a pas longtemps que les Qataris ont investi, hein. Il y a peut-être une dizaine d'années, hein, aussi. Hein. C'est vrai que Manchester City était dans les fins fonds du classement. Mais là, ça a porté ses fruits, puisqu'ils ont fait peut-être des bons investissements au niveau des joueurs. Et j'espère qu'un jour, on saura faire la même chose en France et monter une équipe capable de gagner la Champions League.
Mais quatre clubs anglais en quart de finale, c'est tout à fait possible. Hein. Liverpool, oui. Tottenham, Manchester City, Manchester United, ils sont en ballotage plutôt favorable.
Avec un bémol, City est quasiment qualifié pour les quarts. Tottenham en ballotage favorable, ça reste la Juve. Attention, pour enterrer la Juve, il va récupérer Paolo Di Bala.
On dit bien en ballotage favorable.
Sur ce que j'ai vu, alors je vois pas Chelsea passer, mais après je peux me tromper. Sur ce que j'ai vu de la prestation de Manchester, franchement, ils ont rien à faire en quart de finale. Le jeu pratiqué par l'équipe de Mourinho.
Oui, bien sûr, on parle d'United.
C'était juste une grosse purge.
Il y a des matchs comme ça. Allez, l'Europa League 2-3, Nice éliminé par le Lokomotiv Moscou. 3-2 donc à Nice, 1-0 à Moscou, c'est pas une surprise.
Ben non, parce qu'en fait, j'étais ravi de voir Nice à ce niveau-là, parce que vu les prestations au préalable, bon, mais tout à fait logique. Alors on dit oui, on rencontre les clubs russes, c'est la bonne période, ils jouent pas. En fin de compte, ils vont s'entraîner au soleil et puis ils sont aussi affûtés que les autres. Donc forcément, et quand on connaît le football russe, on sait pertinemment que c'est jamais gagné l'avance. Et la preuve.
Alors, surtout le match à Nice, où Nice gagne 2-0 et ils perdent lamentablement. Là, ça a été une purge. Hein.
C'est Moscou qui gagne 3-2.
J'avais juste annoncé dans les derniers Tribunes Foot au moment des tirages que Nice passerait pas contre le Lokomotiv.
C'était à peu près
prévisible.
Voilà. En tout cas, ceux qui sont passés, c'est Marseille et puis Lyon. Alors Marseille qui a battu Braga 3-0, qui a perdu le match retour pour la forme 1-0, dès le match aller. Et Marseille qui va retrouver Bilbao, l'Atlético.
J'avais dit la dernière fois dans Tribune Foot que Braga c'était quand même un club qui était en dessous de Marseille quand même. Marseille est quand même un ton au-dessus de Braga. Bon, ils ont perdu au retour 1-0 là-bas.
C'était pour la forme.
Oui, voilà, tout à fait.
Mais bon, 3-0, ils vont jouer l'Atlético de Bilbao quand même. Ils retrouvent des adversaires qu'ils ont joué il y a quelques saisons déjà.
Mais je pense que contre l'Atlético de Bilbao, ça peut passer encore. Hein. Les Basques, je me rappelle que à l'époque Lizarazu, je ne sais pas s'il a joué là-bas. Non,
il a joué, mais il y a très longtemps.
Il a joué très longtemps. Ouais. C'est quand même une équipe de milieu de tableau. Je pense que Marseille peut passer ce tour.
Voilà. Et puis Lyon qui a battu Villarreal 3-1, très beau match de foot, match. Et puis match retour, on s'attendait un peu plus serré, 50-50. Et ben non, Lyon est allé gagner à Villarreal 1-0.
Bon, on a vu le bon
Lyon qualifié contre le Spartak de Moscou en 8e.
On a vu le bon Lyon qu'on voit pas en championnat depuis un mois. Et puis la victoire contre
Paris. C'est paradoxal,
quand même. C'est paradoxal, mais on a juste compris que Olas avait fait une priorité cette Europa League, puisque la finale est censée se dérouler à Lyon. Après, il y a encore des grosses équipes, mais ils vont tout mettre sur cette Europa League et ils jouent contre, si vous m'appelez.
C'est le Spartak, là.
Oui, donc un adversaire abordable avec un retour à Lyon.
Ouais.
On peut espérer deux équipes en quart de finale, on est au même endroit.
Hein. Oui, donc c'est bien, c'est peut-être les deux seules équipes qu'on encouragera côté français pour l'indice UEFA, justement.
Et alors justement, sur l'indice UEFA, il y a un truc très important,
c'est que la meilleurs championnats étrangers.
La confrontation entre Moscou et Lyon est primordiale, parce que là, en fonction de ce résultat, on garderait notre cinquième place ou pas, ce qui nous permettrait que notre troisième soit qualifié directement pour qu'un tour en Ligue des Champions au lieu de deux.
Ouais.
Et pareil pour les quatrièmes, cinquièmes. Donc très important la confrontation, il faut vraiment supporter Lyon, c'est important.
Oui, parce qu'on sait que maintenant, les quatre meilleurs championnats, Angleterre, Allemagne, Italie, et Espagne, les quatre premiers seront automatiquement qualifiés donc directement pour la Ligue des Champions. Voilà. Et nous, effectivement, on éviterait quelques tours préliminaires à travers le cinquième et puis le vainqueur de la Coupe de France, je crois. Voilà. Donc, messieurs, donc Lyon, Marseille, ça peut aller au bout ?
Lyon et Marseille, ouais, je pense qu'ils peuvent se retrouver au bout de cette Europa League. Après, comme disait Benjamin, ça dépend du visage que Lyon va montrer. Hein. S'ils montrent le même visage qu'en championnat, ils sont pas constants et c'est dommage.
Bah, ils ont montré complètement différemment. Parce que contre contre Villarreal, c'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on ait vu en Europa League.
Oui. Oui, c'est vrai. Mais il va falloir qu'ils se sortent les doigts et qu'ils jouent autrement et qu'ils soient constants.
C'est un niveau relevé, l'Europa League cette année. Hein. On voit beaucoup d'équipes, de belles équipes. Ouais.
D'année en année, je trouve que le niveau de l'Europa League se relève et se rapproche de plus en plus de la Champions League. Parce que
on a envie de regarder un peu plus les matchs maintenant.
C'est vrai, c'est plus intéressant.
Peut-être qu'on y va un peu plus avec un autre état d'esprit, parce qu'il y a encore quelques années, on en parlait ici, les clubs y allaient pour histoire de faire un match, alors que maintenant, peut-être qu'on a cette grinta, qu'on essaye d'y aller pour la gagner. Et c'est ça qui change tout.
Non, mais on a bien compris aussi que la Champions League était réservée quand même aux clubs qui avaient un support financier très important, et que ces clubs-là ont compris qu'à un moment, c'était une deuxième chance pour eux, puisqu'accéder à la Champions League, ça devenait de plus en plus dur. Et la preuve, c'est parce qu'il y a des innovations dans le domaine de la Champions League, où on va faire un championnat européen des clubs. On voit bien que il y a des coupes maintenant à deux vitesses. Il y a la Champions League où c'est la Formule 1, et puis il y a les autres derrière. Et puis les clubs comme les clubs qui la jouent maintenant à fond ont bien compris que s'ils voulaient s'en tirer, c'était en passant par l'Europa League.
Alors il y avait beaucoup de pays qui la jouent à fond, comme le Portugal, ou la Russie.
À l'époque, on le dit. Disait à chaque tribune foot que les pays latins, Espagne, Portugal et tout ça allaient dans cette compétition pour la gagner, et nous, contrairement à l'époque, on y allait pour faire des matchs moyens et pas la gagner, alors que maintenant la chose est en train de s'inverser.
Je pense que cette année Lyon est particulièrement motivé du fait que la finale sera chez eux, donc on peut espérer que Lyon aille au bout. Enfin, c'est un vœu pieux.
Et on voit bien que Lyon, comme Marseille, met ses titulaires, contrairement aux autres années, certaines équipes. On a bien vu que Garcia faisait pas tourner son effectif en Europa League. Et ça, c'est quand même important. Il faut quand même penser football français. Et notre football français est menacé par des pays derrière nous.
Allez, on passe maintenant à l'équipe de France, parce qu'au mois de mars, on y arrive. Au match de cette équipe de France, il y aura deux matchs. Il y aura un match contre la Colombie le 23 mars. Ça sera donc le vendredi. Et puis un autre match en Russie le 27 mars. On connaît aussi les adversaires. Je crois que la France jouera contre les USA et puis contre l'Italie, notamment en match amical. On va rentrer dans le vif du sujet, monsieur, là.
Ouais, tout doucement, là, ça reste des matchs de préparation, histoire de peaufiner. On sait très bien que Didier Deschamps a déjà 16 à 17 noms pour la liste. Ça lui permet de faire ses derniers essais. Moi, j'aimerais bien qu'il essaye le nouveau défenseur de Barcelone, Henrik Laporte, à voir. J'aimerais bien le voir sur un match international. Et bon, comme je vous dis, il ne faut pas s'attendre non plus à Mont et Merveille. Ça reste des matchs amicaux au mois de mars. Et...
Oui, contre des adversaires qui ne sont pas non plus, hormis l'Italie, les États-Unis, la Colombie. Enfin bon, c'est pas non plus. Alors effectivement, c'est la revue des troupes. Alors après, faudra aussi considérer qu'il y a, il pourrait y avoir éventuellement des blessés, malheureusement, d'ici les barres de la Coupe du Monde. Bon, effectivement, peut-être qu'il fera rentrer quelques nouveaux joueurs pour voir si c'est possible.
Ouais. De toute façon, il a déjà pratiquement son groupe en tête. Hein, à deux, trois exceptions près, au mois de mars, on a déjà à peu près son groupe qu'on aura en mai-juin pour le Mondial. Hein.
On a un joueur actuellement qui est en pleine bourre. Hein, il vient de marquer un quadruplé, Griezmann, là, dernièrement. C'est un des seuls Français qui a réussi un quadruplé en Liga espagnole, et j'espère qu'il sera au top au mois de juin pour l'équipe de France et qu'il fasse la même chose avec l'équipe de France en Russie.
Alors oui, effectivement, il va y avoir des ajustements de dernière minute. Alors Lemar, Thauvin, pas Thauvin, ça sera en fonction des éventuels blessés, et c'est ça. Mais bon, je pense que le plus gros de la troupe est déjà sur les tablettes de Didier Deschamps et qu'on va les retrouver en préparation à Clairefontaine avant de partir en Russie.
Qui va pas y être, c'est Payet, hein, c'est quoi.
Ah bah s'il passe son temps en tribune, regardez les autres, forcément, il a intérêt justement à profiter des matchs de la Coupe Europa pour se montrer un peu et éventuellement se rappeler aux bons souvenirs du sélectionneur.
Oui, c'est dommage, mais enfin bon. Mais je pense pas qu'il y ait de surprise dans la sélection de Didier Deschamps. On connaît tous les joueurs. Pourtant, bon, ça serait l'occasion dans les matchs amicaux d'essayer des nouveaux, mais on est peut-être un peu trop près de l'événement pour pouvoir.
Quelques ajustements, comme on disait, d'un ou deux joueurs, mais sa liste, il l'a déjà en tête et c'est celle-là qui l'emmènera en Russie.
Il y a quand même quelques inquiétudes quand on voit que Benjamin Mendy peine à revenir. Au niveau du latéral gauche, ça va être très compliqué. Lucadine qui joue pas, Kurzawa qui est un peu branché sur courant alternatif. Et aussi, moi je m'inquiète aussi, tout le monde n'en parle pas, mais du niveau actuel de Paul Pogba. C'est plus le Pogba de la Juventus. Et est-ce que Deschamps aura entre guillemets les coronets de le faire tourner avec d'autres joueurs, ou il maintiendra dans son 11, j'en doute.
Il fera peut-être un super mondial, qui sait.
Alors la saison qu'il est en train de passer avec Manchester est très compliquée.
Il faut savoir que Deschamps, c'est pas Mourinho, et peut-être que les affinités entre Pogba et Deschamps sont meilleures qu'entre Pogba et Mourinho à l'heure actuelle.
Allez, la page de pub et la pause musicale.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche, à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Des. Clip, crack, des. Bang,
des.
Bang,
et des.
Zip, shabam.
Les swings et les uppercuts, ça fait,
Vlam,
ça fait,
splash,
et ça fait,
ch'top,
ou bien,
bon,
ou parfois même,
tchabam, pow, blow,
viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des,
oui,
des,
clip, crack,
des,
bang,
des,
blow,
et des,
zip, tchabam.
Par-dessus le building, ça fait
win.
Quand on s'envole et puis
cling.
Après quoi je fais
tilt.
Et ça fait
boing, shabam.
comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des
whip, des clip, crack,
des
bang,
des
bop,
et des
zip, shabam, pow, blop, whew.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi.
Smack, shabam, pow, blop, whiz, shabam, pow, blop, whiz, shabam, pow, blop, whiz.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Allez, pour finir sur cette émission, juste un petit rectificatif. On a fouillé un peu plus hein, concernant la création de la Ligue des Nations. Et c'est vrai que bah, le vainqueur de chaque groupe sera qualifié pour la phase finale de l'Euro. Et si l'équipe est déjà qualifiée en ce moment-là pour l'Euro, et bien c'est le deuxième du groupe qui automatiquement donc, sera qualifié pour cet Euro. Début de cette épreuve et de cette compétition, juste après la Coupe du Monde de cet été. Voilà, merci messieurs d'avoir... participer à cette émission. Rendez-vous le 8 avril et puis on va tous être derrière le PSG et puis nous clubs français, ok.
Allez,
bon dimanche à tous et à toutes. N'oubliez pas le Paris-Nice dans notre région ce week-end et puis la semaine prochaine 2h d'émission, 9h-11h le direct du semi-marathon de Rambouillet sur l'antenne d'Herbe. Bon dimanche à toutes et à tous et rendez-vous donc la semaine prochaine sur le semi de Rambouillet. Salut.